Bonsoir. Deux thèmes composent le menu de la tribune de presse de ce soir. La situation actualisée du choléra en République démocratique du Congo. Selon des statistiques récentes, près de 2000 nouveaux cas de choléra, dont 50 décès, ont été enregistrés au pays entre le 6 et le 12 novembre dernier. Et le coordonnateur du programme national pour l'élimination du choléra explique même que depuis le début de cette année, le choléra a contaminé 45 000 personnes et tué près de 1000 malades. Les détails dans un instant. Notre deuxième sujet abordera l'actualité internationale et précisément celle du Zimbabwe. Ce pays a depuis hier un nouveau président de la République. Emmerson Mnangagwa remplace, comme le prévoit la constitution zimbabwéenne, Robert Mugabe à ce poste. Ce dernier ayant démissionné mardi dernier après 37 ans de pouvoir. Pour parler de ces deux actualités, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marie Nkamba, journaliste du groupe de presse L'Avenir. Jean-Marie, bonsoir.
Bonsoir, confrère.
Joël Kadeh Danga, bonsoir.
Bonsoir, chers confrères.
Vous êtes éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa. Et puis, dimanche, Kamate, bonsoir.
Oui, bonsoir, chers mes confrères. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
C'est un plaisir de vous avoir, journaliste, reporter à la radio-télévision Mungano à Goma, au Nord Kivu. Bienvenue à tous dans cette émission. L'actualité en République démocratique du Congo, comme d'habitude, est restée riche cette semaine et Alain Irung nous donne ici quelques éléments dans cette revue de presse.
Plusieurs sujets ont fait l'actualité cette semaine. La presse kinoise s'est étendue sur la menace qui plane sur le Premier ministre Bruno Tshibala avec une interpellation initiée contre lui par le député Henri Thomas Lokondo. Selon le potentiel, les jours de Bruno Tshibala à la primature sont comptés. Son sort a été scellé mercredi 22 novembre à l'Assemblée nationale au terme d'une interpellation initiée par le député MP Henri Thomas Lokondo au motif qu'il a accumulé beaucoup de retard dans le dépôt du projet de loi budgétaire pour l'exercice 2018. Le phare de son côté fait remarquer que M. Lokondo a demandé à Bruno Tshibala de rendre le tablier dans les 3 jours suite à la violation intentionnelle de la Constitution. Faute de quoi, poursuit le tabloïd, il serait bien obligé d'enclencher la procédure de la motion de censure contre lui et son gouvernement, conformément à la Constitution. Face à la mise en demeure d'Henri Thomas Lokondo, Bruno Tshibala trouve appui dans la Constitution, titre Forum des As. Sur un autre registre, la presse de Kinshasa revient sur les marches que programment le Rassemblement et la majorité présidentielle pour protester contre le calendrier électoral ou le soutenir. Marche, le piège se referme sur la majorité présidentielle, titre Le Phare. Le Rassemblement a décidé de décaler sa marche de 48 heures en la reprogrammant pour le 30 novembre, indique le tabloïd. Dépêche.cd précise que cette marche pacifique, selon la lettre de Martin Fayoulou, débutera à 7 heures du matin dans différents endroits de la capitale Kinshasa et aura comme point de chute le boulevard Triomphal à partir de 17h30. La majorité présidentielle a reçu avec satisfaction la décision du rassemblement de décaler de 2 jours la marche prévue initialement le 28 novembre, renseigne casinfo.ca. Joseph Kokonyang estime que la MP n'a pas voulu court-circuiter la date prévue par l'opposition, mais c'était juste une coïncidence, niant toute idée d'une confrontation avec l'opposition. Terminons par la réaction de Corneille Nanga, président de la CENI, au rapport publié par la mission d'observation électorale de justice et paix de la CENCO. Corneille Nanga a profité lundi d'une réunion organisée au siège de la CENCO pour fixer l'opinion sur les options du reste irréfutable levées sur le calendrier électoral, rapporte le potentiel. Le Phare, de son côté, reprend des extraits de l'intervention du président de la CENI. Il n'y aura plus de discussion de date. Cette date, le 23 décembre 2018, est derrière nous. Que chacun fasse ce que l'on attend de lui. L'Avenir, de son côté, rapporte que Corneille Nanga qualifie le rapport de la CENCO de précoce et prématuré.
Merci Alain Irung. Nous accueillons pour cette tribune Jean-Marie Nkamba, je l'ai dit à l'introduction de cette émission, journaliste au groupe de presse L'Avenir, Joël Kadeh Danga, éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa, et dimanche Kamate, journaliste reporter à la radio-télévision Mungano à Goma, au Nord Kivu, et nous commençons par vous qui êtes loin hein, de notre studio. Dimanche, avant d'évoquer nos deux sujets du jour, y a-t-il d'autres sujets que ceux évoqués dans notre revue de presse par exemple que vous souhaiterez commenter? La motion déjouée contre le ministre des Affaires étrangères au sujet du passeport congolais, ou peut-être Mazembe qui est à un pas seulement, samedi prochain, de gagner un autre trophée continental après celui de l'année dernière.
Je voudrais d'abord commencer par notre côté. Je suis présent à Oita, c'est la commune de Rizal. Et ici, la situation va très mal parce que la population est en train de critiquer n'importe quel moment. Et malheureusement, c'est par certains éléments incontrôlés de nos forces loyalistes. Il ne se passe pas des jours, une semaine, ça qui est hors d'homme. Et donc, pour le moment, la situation va très mal. Et je veux aussi profiter de l'occasion pour vous dire précisément à Oita, dans cette commune, les activités scolaires sont paralysées et consécutivement à l'assassinat de jeunes élèves de l'Institut Massossi, c'est vraiment une tension qui demeure, qui ne fait pas compter l'histoire au niveau de cette commune d'Oita. Et malheureusement, lorsque la population a fait de présenter son ras-le-bol aux autorités, parce que la crème intellectuelle a demandé à ce qui est d'abord descente du gouverneur Julien Paloukouka à Dino Kivu, ainsi que du commandant de la 3e zone de défense Léo Mouchalé. Malheureusement, ce message ou le message de la population n'a pas été bien entendu, parce que sur une chaîne locale, le numéro 1 du territoire a dit que le gouverneur n'a pas voulu descendre sur cette commune parce que les questions locales doivent être traitées localement. Donc cela constitue une préoccupation au niveau d'ici et la population souhaiterait en fait que cette nouvelle unité des FDC envoyée ici sur place soit donc reconduite ou envoyée ailleurs.
Merci beaucoup Dimanche Kamate. Nous reviendrons à vous. Jean-Marie Nkamboa, journaliste au groupe de presse L'Avenir. Quelle est votre réaction?
Merci Donna pour la parole. Je note que ce qui intéresse les Congolais pour l'instant, c'est d'abord la sécurité à travers tout ce qui se passe à l'est du pays, qui nous fait très mal, parce que dans un tel contexte, vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas entreprendre des projets et puis les concrétiser. Il y a aussi les conditions sociales de la population, l'amélioration du panier de la ménagère ou du sachet des papas qui est préoccupante, et un sujet que le gouvernement peut bien se pencher pour ne pas nous distraire. Je parle aussi des élections. Par rapport aux élections, je dirais que tout ce qui se passe au Parlement, à travers les motions, à travers ceci ou cela, il est vrai que nous sommes dans une jeune démocratie, il est vrai que ce sont des initiatives parlementaires, mais moi je note que nous risquons de nous distraire inutilement. Tout le monde sait très bien le travail d'un député national ou d'un élu du peuple, c'est le vote des lois, le contrôle parlementaire, ainsi de suite. Si, et seulement si, les députés avaient très bien fait leur travail, nous ne serons pas arrivés à ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. S'ils avaient appliqué la loi depuis les années antérieures, en sanctionnant lorsqu'il y avait des fautes, en condamnant, en faisant effectivement leur travail, peut-être aujourd'hui, nous serions très avancés. Mais nous ramener pratiquement aujourd'hui à la case départ, pendant qu'il y a une date des élections qui a déjà été fixée, ça risque de ressembler à la distraction tout simplement que la population, que le peuple n'a plus besoin. Donc nous n'avons plus besoin de nous distraire, mais nous avons tout simplement besoin de réunir nos efforts. Il y a des contraintes qui ont été épinglées, qui ont été avancées. Pourquoi ne pas chercher à les rencontrer, à les réaliser, afin que les élections soient organisées à temps, plutôt que de nous distraire à travers des motions interminables. Les motions pour lesquelles on sait déjà la finalité. On sait très bien qu'une motion qui est fomentée par un député de l'opposition ou une majorité modérée ne passera pas. Tout le monde sait. Tout le monde le sait très bien. Et je ne vois pas pourquoi nous devons toujours nous engouffrer dans la même procédure comme si l'histoire ne doit pas nous enseigner. C'est désolant et je préfère le dire ainsi que les priorités, ce ne sont pas celles-là. Nous n'avons pas besoin de ces débats interminables sur les sexes des anges, qui a fait ceci ou qui a... Nous avons besoin d'aller aux élections et pour aller aux élections, il faut qu'on ait un budget, il faut qu'on ait l'argent temps. Il faut qu'on ait les conditions sécuritaires réunies. Et aussi, il ne faut pas oublier l'amélioration des vies quotidiennes de la population.
D'accord. Joël Kadé Danga, votre commentaire. Avez-vous un sujet que vous souhaitez commenter?
Oui, l'effervescence au Palais du Peuple, c'est entre autres la loi électorale, la loi sur les finances et aussi la loi sur la révision du code minier qui a été déposée. Mais là, il y a des frustrations au niveau de la société civile parce que le texte que le ministre Kaboloulou a amené un texte unilatéral qui ne rencontre pas le consensus et de la Chambre des mines et de la société civile. C'est un texte pratiquement unitaire où les gains de l'État ont été largement augmentés. Or, vous savez la manière dont, durant tout son mandat, l'argent a été géré. Mais pour conditionner les députés à adopter cette loi-là, ils ont été retirés à l'hôtel Béatrice, ou plus de 500 000 dollars qui seraient sortis pour, n'est-ce pas, acheter leur conscience. C'est que les autres déplorent et la Chambre des mines, les opérateurs miniers menacent de mener notre pays en justice sur le plan international. Et vous savez que dans la plupart des cas, on a toujours perdu ces procès-là. C'est ainsi qu'il serait utile et serait sage au niveau du Parlement que l'on puisse demander à Kaboloulou de concilier les thèses qui ont été, les amendements qui ont été apportés par la société civile, notamment la commission ressources naturelles de la SENCO, et les observations qui ont été faites par les opérateurs miniers, de telle sorte qu'on ait un seul texte au lieu de vouloir créer le chaos, alors que sur le plan sécuritaire, vous avez appris ce que notre ami dit au niveau de Béni, c'est déjà un chaos sur le plan économique, sur le plan financier, et amener ces chaos dans les mines où les détournements monstrueux ont été opérés, ça risque d'être beaucoup plus grave.
Alors nous allons clore ce chapitre des commentaires préliminaires.
Un petit mot par rapport au secteur minier. Nous devons expliquer à la population que si les gouvernements s'est résolu d'amender ou de faire réviser les codes miniers, il y a beaucoup de raisons. L'une des raisons, c'est le fait de constater que l'État ne gagnait pas tellement. Il y avait beaucoup de principes qui étaient dictés, qui étaient élaborés dans les codes miniers et qui ne servaient à rien, qui ne permettaient pas au gouvernement de pouvoir entrer dans ses droits. Et comme conséquence, nous avons un code minier qui date depuis 2002, mais dont le peuple congolais a du mal à pouvoir apprécier ses retombées sur le plan économique. Et j'étais dans un forum organisé par la Banque mondiale, j'ai suivi les ministres Kaboloulou dire que c'est à cause de la Banque mondiale, c'est à cause de ces codes miniers-là que nous n'avançons pas, que nous ne développons pas. C'est comme si c'était le code minier qui entrait en négociation avec des partenaires étrangers.
Alors, je vous arrête là. Nous allons avancer dans notre débat. Merci beaucoup. Journaliste, reporter à la télévision, à la radio-télévision Mungano au Nord Kivu, dimanche Kamate, Mazembe joue encore pour la deuxième fois consécutive, hein, deux ans de suite, une finale de Coupe d'Afrique et à un pas samedi prochain de remporter probablement une autre victoire. Vous avez un pronostic?
Oui, je voudrais d'abord adresser mes remerciements à cette équipe qui fait la fierté de la République démocratique du Congo.
Un mot, votre pronostic, un mot.
Oui, je voudrais souhaiter un petit remerciement à cette équipe qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Mazembe, c'est une équipe qui doit bénéficier du soutien de toute la population.
Tout à fait. Mais est-ce que Mazembe, est-ce que Mazembe gagne ou pas?
Qui souci à apporter ce soutien, hein, qui n'est pas cette fois-ci
dimanche.
Des réalités liées à la politique.
Dimanche.
Les Herman Moïse Katumbi qui n'est plus au pays, mais je souhaiterais que le gouvernement congolais puisse aussi apporter son soutien à cette équipe qui fait la fierté de la RDC, parce que pour le moment c'est tous les Congolais qui attendent.
Merci Dimanche, on aurait voulu que vous nous disiez si Mazembe gagne et probablement par combien. Jean-Marie, avez-vous un pronostic?
Oui, moi je pense que Mazembe va l'emporter par 1-0. C'est là pourquoi, parce que nous avons, disons, Mazembe a déjà joué avec Super Sport en aller et tout, c'était toujours match nul, malheureusement ou heureusement. Le match que nous avons joué à Lubumbashi nous a porté bonheur. Nous les avons gagnés par 2-1. Toutes choses restantes égales par ailleurs, j'estime que Mazembe va encore gagner en terre africaine, en terre sud-africaine.
Merci, Joël Kadé.
Non, je crois à la victoire de Badiangouéna Baseka par 1-0 parce que j'en appelle pour cela les autorités politiques qu'ils mettent un peu leurs sentiments à côté pour que tous les Congolais de tous bords que nous soyons, que nous puissions apporter notre soutien au tout-puissant Gleyber Mazembe.
Bonne chance au tout-puissant Mazembe. Donc, allons à présent à notre premier thème de ce soir. La République démocratique du Congo fait face à la plus grande épidémie de choléra dans les provinces du Kasaï. Le responsable de la structure de lutte contre le choléra en RDC l'a signifié samedi au cours d'une conférence de presse organisée par le ministre de la Santé. Il compare cette épidémie à celle qui avait fait 12 000 morts à la première semaine à Goma en 1994, d'après le professeur Didier Bompangé, à la seule semaine du 6 au 12 novembre 2017, le pays a enregistré près de 2 000 cas, dont 50 décès. Cette épidémie touche 22 provinces sur 26. Le professeur Didier Bompangé lance un appel de mobilisation des moyens pour lutter contre cette maladie qui, depuis le début de l'année, a contaminé plus de 45 000 personnes, dont à peu près 1000 décès. Il est au micro d'Askin Zibiataoro.
La situation la plus préoccupante, c'est celle du Kasaï à cause de la déstructuration des structures de soins et aussi du fait que les cas proviennent des villages de plus en plus éloignés, très enclavés et l'accès est extrêmement difficile. Aujourd'hui, ce qui est fait en termes d'action, c'est que l'ensemble des partenaires du ministère de la Santé, Médecins Sans Frontières, l'OMS, l'UNICEF et nos équipes du programme d'élimination de choléra sont à pied d'œuvre avec les moyens dont on dispose. Mais le plus important, comme appel, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de moyens, on a besoin de beaucoup plus de partenaires pour répondre principalement à la problématique qui est en train de surgir actuellement sur le Kasaï. Parce que s'il n'y avait pas le Kasaï, aujourd'hui l'épidémie pour les autres provinces est en train de fortement baisser. Même si on a encore quelques foyers au Congo central, au sud Kivu et dans le Haut-Lomami, principalement autour de la zone de Moulongo. On a besoin de mobiliser beaucoup plus longtemps du personnel. Ce personnel, il faut le payer. On a besoin de médicaments. Tout cela arrive à X millions de dollars, voilà, pour mettre en place tous ces moyens.
Dimanche Kamate, vous êtes journaliste à la radio-télévision Mungano Nord Kivu. Quel commentaire avez-vous de cette situation sur le choléra en RDC?
Voilà, cela doit d'abord interpeller le ministère de la Santé parce qu'aujourd'hui, si la population est en train de perdre sa vie à cause des choléras, cela prouve en suffisance que le ministère de la Santé a un sérieux problème. Parce que l'année dernière, j'avais été à Goma et sur le lac, j'étais en train d'observer comment les gens étaient en train de puiser l'eau et c'est cette même eau qui était en train d'être consommée par la population. Mais en voyant la qualité de l'eau que la population est en train de consommer, on s'est dit finalement, est-ce que cette eau ici mérite pour la consommation? Donc, le ministère de la Santé doit d'abord réfléchir deux fois. Deuxième élément, je constate qu'au niveau des radios, il n'y a pas des émissions de sensibilisation. Parce que les conditions hygiéniques dans lesquelles la population est en train de vivre actuellement, ce sont des conditions qui ne peuvent pas permettre à la population d'échapper à l'épidémie de choléra. Voyez-vous, même au niveau des écoles, l'enseignant qui revient de la salle de classe avec l'armée continuant la poussée de la craie, vous verrez l'enseignant qui tombe subitement sur un gâteau ou sur une banane et il commence à manger, ou bien qu'il y a aussi des microbes. Donc des émissions à caractère sanitaire, des émissions de santé doivent être multipliées sur l'échelle des radios de la RDC. Et à la population aussi, il faudrait savoir que l'on peut faire toute activité si l'on est en bonne santé. Parce que si vous êtes malade, comment vous ferez, par exemple, la marche, comment vous allez étudier alors que votre santé n'est pas bonne? Donc, la population doit aussi réfléchir deux fois. et respecter aussi les normes hygiéniques pour échapper à cette épidémie de choléra. Mais plus particulièrement à notre gouvernement, je souhaiterais que le ministère de la Santé essaie de revoir sa stratégie de lutte contre cette épidémie, parce que avant cette épidémie ne ravageait pas la population. Lorsqu'il y a résurgence de cette épidémie, cela doit interpeller le ministère de la Santé.
Jean-Marie Nkamboa, comment analysez-vous cette situation? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une négligence générale des autorités ou plutôt une situation qui survient à cause peut-être des contextes climatiques?
Dona Madimba, nous avons parlé ici des provinces du Kasaï. Tout le monde sait très bien que ce sont des provinces qui ont connu la guerre, qui ont connu les affres de la milice Kamwena Nsapu. Ce sont des provinces où les populations ont été sérieusement déplacées et où les conditions de vie sont déplorables. C'est un peu ça les contextes. Lorsqu'on est dans un contexte pareil, lorsqu'on est dans des provinces pareilles, moi j'aimerais interpeller ceux-là qui ont été à la base de cette situation, ceux-là qui ont provoqué cette situation, à pouvoir mobiliser les moyens pour pouvoir nous sortir d'affaires. Sinon, c'est comme faire souffrir, faire mourir encore des populations qui ont déjà souffert.
Mais est-ce que de cette situation, on a tendance à mettre la responsabilité première sur les dirigeants? Mais est-ce que la population elle-même ne peut pas assainir les milieux dans lesquels elle vit? Est-ce qu'elle ne peut pas prendre des précautions pour éviter ce genre de situation?
Je dis très bien que le choléra a été d'abord épinglé dans ces provinces-là, mais la situation se généralise au niveau du pays, au niveau de toute la République démocratique du Congo. Jetez un coup d'œil à Kinshasa, notre capitale, notre miroir, et regardez l'assainissement. Regardez les niveaux de l'assainissement, regardez les niveaux de l'insalubrité, regardez au niveau de toutes ces histoires. Vous verrez très bien que les conditions, disons, que les Congolais ne vivent pas dans des conditions qui lui permettent d'avoir une très longue vie. C'est comme si tout est fait pour que qu'il puisse mourir aussi plus vite que possible.
Je vous comprends. Jean-Marie.
Et pourtant, s'il y avait des investissements fait dans les domaines de l'assainissement, dans les domaines de l'urbanisation, les conditions de vie quand même de la population auraient dû s'apprécier. Rappelez-vous, dans le temps, lorsqu'il y avait des programmes d'assainissement dans nos différentes villes de la République démocratique du Congo, vous verrez qu'il y a certaines maladies qui n'étaient pas au quotidien comme aujourd'hui. Étant donné qu'il n'y a plus d'investissement dans ces domaines, il n'y a plus de moyens qui sont mis, il n'y a plus de sérieux des contrôles dans ce domaine, la population est laissée à son propre compte.
Jean-Marie, ne vous inquiétez pas, vous aurez encore un tour de parole. Mais Joël Kadeh Danga, éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa, comment arrive-t-on à une situation sanitaire pareille dans un pays?
Oui, parce que vous avez parlé essentiellement de la province du Kasaï en dehors des autres. Jean-Marie venait de rappeler le affre de la milice Kamwina Nsapu, mais c'était une situation montée. Mais vous allez comprendre qu'à cause de l'opposition de Tshisekedi depuis 1992, ces provinces ont été abandonnées à leur triste sort par les trois régimes qui se sont succédés, à tel point que vous allez comprendre comme si les Kasaïens ont été appelés à être sanctionnés sévèrement. Et par ces sanctions, aujourd'hui vous avez 1 500 000 Kasaïens ou Congolais qui sont en dehors de leur maison. Et quand vous êtes en dehors de maison, quelle est l'eau qu'on leur accorde? Qu'est-ce qu'ils boivent? C'est l'eau des rivières. Et c'est l'eau sale.
Dans ces conditions. Dites-moi un peu, est-ce que c'est pas aussi de la responsabilité de la population de mettre suffisamment de pression sur les autorités pour obtenir des meilleures conditions de vie? Je veux vous donner un exemple. Les populations s'organisent parfois bien, par exemple, lorsqu'il s'agit de compétitions sportives, pour aller supporter les équipes, pour s'habiller d'une certaine manière. Voilà des initiatives. Mais ils peuvent aussi prendre des initiatives ou alors mettre suffisamment de pression sur les autorités pour obtenir des meilleures conditions de vie, non?
Non, Dona Madimba, je dois vous rappeler l'émission du pouvoir public ou du pouvoir politique.
Pourquoi? Mais on se rend bien compte, vous et moi apparemment, que les pouvoirs en place ne tiennent pas compte de ça.
Non, pourquoi il y a chef de quartier? Pourquoi il y a chef de commune? Pourquoi il y a bourgmestre? Pourquoi il y a le gouverneur? C'est parce que ces gens sont pris en charge par les trésors publics en vue d'assurer la sécurité, l'ordre public de tous les autres, en vue d'assurer le bien-être de la communauté, de toute la communauté. Mais aujourd'hui, vous allez constater quoi? Lorsque quelqu'un est élevé en fonction, c'est comme si il y a une opération qui s'opère où on lui enlève les cœurs d'hommes, on lui remplace un cœur de monstre, à tel point qu'il abandonne les missions pour lesquelles il a été désigné à ses postes. Conséquence, on abandonne la population à son triste sort. Et Jean-Marie Kambo a donné l'exemple d'ici à Kinshasa où nous nous trouvons. Mais je vous parlais de la situation qui prévaut actuellement dans les provinces du Kasaï. Les gens ne sont pas dans leur propre maison. Pour avoir l'eau au robinet, c'est une seule fois. Par exemple, quand vous êtes à Kanango, à Mbujimaï, c'est la souffrance la plus totale. Ce qui a fait que vous voyez que la plupart des jeunes du Kasaï ont quitté. Ils sont partout, aller à l'Équateur, aller à Bandaka, aller dans la province orientale. Vous allez les trouver parce que même la MIBA qui permettait qu'ils puissent vivre, il n'y a pas le moyen de vivre. Et les conditions de vie sont extrêmement difficiles. On peut parler aujourd'hui de la Libye, où les Noirs sont vendus. Mais je vous dis que au Kasaï, les gens vivent esclaves sur leur propre sol.
Alors, la solution, selon vous,
qu'ils soient policiers ou militaires, il ajoute à cela une souffrance, une asphyxie.
Alors Joël Kadé, la solution à cette situation pourrait être quoi concrètement?
La solution à cette situation, c'est que l'on puisse aller aux élections pour que la population sanctionne positivement ou négativement ses responsables et qu'il y ait un devoir de redevabilité envers la population. Lorsque vous avez des dirigeants, un gouverneur qui a été nommé parce que recommandé par le trio Chadari, Kokonyangi ou Minaku, lui, cet homme-là ne répond qu'à Minaku, cet homme-là ne répond qu'à Némi Mouilanya. Bon, la population peut souffrir, elle peut faire tout ce qu'elle veut, il ne dépend pas de la population. Il n'a aucun devoir envers cette population-là. C'est ainsi que la population est abandonnée. C'est qu'il y a la situation d'illégitimité dans laquelle on nous a placés avec la confiscation du pouvoir par le coup d'État constitutionnel opéré le 19 décembre 2016, ça fera en sorte qu'il y aura des crises dans tout le domaine. C'est comme si ce régime avait reçu la mission de décimer les Congolais, de tuer tous les Congolais.
Merci.
Jean-Marie Kambo l'a dit. Si ils ne sont pas tués par les armes, ils sont tués par des maladies. S'ils ne sont pas tués par des maladies, ils sont tués par la faim. S'ils ne sont pas tués par la faim, ils sont tués par une asphyxie à tel point que...
Joël Kadé, nous passons à notre
pouvoir,
deuxième sujet du jour.
Un petit mot.
Oui, très rapidement. Vraiment un petit mot.
En termes des solutions, il est vrai que nous devons aller aux élections, bien sûr, mais au niveau du ministère de la Santé, il existe un plan stratégique du secteur de la santé pour une couverture sanitaire universelle d'ici 2030.
Alors,
c'est un plan qui existe et qui a besoin des moyens, des financements. Une fois que le financement est disponible, je pense que le ministère de la Santé est à même de pouvoir terminer, éradiquer les épidémies comme le choléra, ainsi de suite.
Dimash Kamate, quelle serait la solution, selon vous, pour vaincre ce problème de choléra?
Oui, je vais présenter ma piste de solution à deux niveaux.
Assez rapidement.
Le premier niveau est celui qui concerne la population. Vous savez, pour rentrer propre, par exemple, sa propre parcelle, cela ne nécessite pas seulement l'intervention du gouvernement. Nous, population, nous devons fournir les efforts pour respecter aussi les conditions hygiéniques, parce que si les conditions hygiéniques ne sont pas réunies, il y a risque d'être contaminé par plusieurs microbes. Et donc, nous, population, nous devons aussi lutter fort pour que nous puissions accéder à la bonne santé. Deuxième niveau de ma petite solution à présenter, au ministère de la Santé, comme je le disais tantôt, le ministère de la Santé doit accorder la valeur à ses santé, parce que toute activité humaine nécessite une bonne santé. Il faut qu'il essaie de voir comment mettre en application sa stratégie de sensibilisation de la population et appeler celle-ci à respecter les conditions hygiéniques. Et donc, c'est à ce niveau que je peux présenter mes deux pistes de solution.
Merci beaucoup Dimash Kamate. Le deuxième thème de notre tribune d'aujourd'hui, Zimbabwe. Ce pays a depuis hier un nouveau président de la République. Emmerson Mnangagwa remplace, comme le prévoit la constitution zimbabwéenne, Robert Mugabe à ce poste. Ce dernier a démissionné mardi dernier après 37 ans de pouvoir. Tout a commencé par une mise à l'écart de Robert Mugabe le mercredi. mercredi 15 novembre par l'armée qui avait décidé de confiner désormais le président Mugabe en résidence surveillée. Écoutons à ce moment-là le commentaire que faisait en son temps l'universitaire congolais Félicien Kabamba.
La grande question qui se pose dans l'exercice du pouvoir en Afrique et en particulier au Zimbabwe aujourd'hui est celle de l'alternance démocratique. Quand vous regardez l'histoire récente de la plupart des régimes africains, vous allez vous rendre compte que la chute de régimes dictatoriaux comme ceux de Blaise Compaoré, Yahya Jammeh et aujourd'hui Robert Mugabe marque véritablement un tournant de l'histoire politique des régimes. En clair, ces régimes que l'on croit forts sont en réalité faibles. On les croit inamovibles parce que c'est des régimes totalitaires, mais finalement, ils s'écroulent aussi facilement. Et à la clé, ce sont les revendications d'alternance démocratique. La particularité de la question d'alternance ou de la revendication d'alternance au Zimbabwe est que cette question ne s'est pas réglée par la rue, mais plutôt au niveau de l'armée. La leçon à tirer est donc la suivante, c'est que le pouvoir de l'État n'est pas un pouvoir éternel, un pouvoir temporel. Il doit être délimité dans les temps. De la sorte, les modalités de sa dévolution doivent être bien standardisées et partagées dans toute la société. C'est de cette manière-là que tout pouvoir sans limite est appelé à une fin tragique.
Journaliste au groupe de presse L'Avenir, Jean-Marie Nkamboa, selon vous, Robert Mugabe a été démis, il a vraiment démissionné. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de tout ça?
Oui, il y a des leçons à tirer et je me dis que si Robert Mugabe n'avait pas commis quelques erreurs, notamment le fait d'avoir fait démissionner ou bien le fait d'avoir limogé son vice-président, peut-être nous ne serons pas arrivés là. C'est une erreur qui lui a coûté, c'est une erreur fatale. Dans la mesure où M. Nangwangwa, comme vous venez de l'appeler tout à l'heure...
Ouais, son nom est assez compliqué à prononcer, on va s'habituer.
C'est un vétéran, il a fait la prison ensemble avec Mugabe. Et nous apprenons d'ailleurs qu'en prison, c'est Mugabe qui était son professeur.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop facile? Avez-vous l'impression que c'est vraiment cet événement qui a fait partir le président Mugabe? Est-ce que ce n'était pas déjà planifié?
C'était un déclic, c'était un déclencheur, dans la mesure où... Le vice-président, il y a eu un temps où il était ministre de la Justice. C'était lui le patron de la sécurité, à telle enseigne qu'il était en contact avec les policiers et les militaires et il les connaît très bien. Et lorsqu'ils ont constaté que Mugabe virait ailleurs plutôt que dans la ligne directrice prévue par les partis, la ZANU-PF et les militaires, par respect, n'ont fait que ce qu'ils ont fait là.
Mais est-ce que vous pensez que les militaires ont plus de respect pour Nangangwa que pour Mugabe qui est le père de l'indépendance?
Je venais de le dire tout à l'heure qu'on peut être père de l'indépendance, mais il y a des erreurs fatales, il y a des erreurs qui ne se pardonnent pas. Les erreurs qui ne se pardonnent pas, c'est lorsqu'on subit une influence d'une femme qui n'a pas commencé le militantisme dans le parti et qui est entrée dans le parti par escalade. Et cela au détriment d'un vice-président qui a fait la prison, qui a fait le martyr ensemble avec Mugabe.
Donc... Dimanche Kamate, journaliste à Radio-Télévision Mungano au Nord Kivu, selon vous, les militaires ont vraiment fait démissionner le président Mugabe ou vous pensez que c'est peut-être aussi la communauté internationale ou lui-même?
Voilà, je vais d'abord dire ceci. Pour nous, la RDC, cela constitue une grande matière et nous devons tirer des leçons là-dessus. Pourquoi? Parce qu'au niveau des militaires zimbabwéens, j'ai constaté l'essence de patriotisme très élevé parce que ce sont des militaires qui ont traduit les aspirations de la population. Comprenez, cher Zona Madiba, lorsque le président reste ou cherche à s'accrocher longtemps en vie, au pouvoir, il veut faire la présidence à vie. Je me dis, est-ce que dans ce pays, il n'y a pas une constitution? Est-ce que dans ce pays, il n'y a pas des lois? C'est vraiment un sens élevé de patriotisme que les militaires zimbabwéens ont prouvé à toute la communauté internationale. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Robert Mugabe lui-même, il était déjà fatigué parce que quelqu'un qui est âgé de 93 ans, que peut-il encore faire dans un pays comme celui-là? C'est un peu difficile. À quand même de son âge, avec 93 ans, en le voyant, on s'est dit finalement, tout passe et tombe, cherche toujours encore à s'accrocher au pouvoir.
Alors,
c'est à ce niveau que nous allons dire, au niveau de certains pays africains, il y a certains chefs d'État qui pensent qu'une fois arrivés au pouvoir, on oublie qu'on avait été voté par la population, et c'est une chose à dénoncer. Donc nous devons tirer, nous, République démocratique du Congo, nous devons tirer des leçons. Et aujourd'hui, j'en profite, il y a des soulèvements qui sont en train d'être annoncés, des marches, des manifestations qui sont en train de s'annoncer. Ça prouve en suffisance que, pareil, quand on s'est présenté à RDC, je ne suis pas en train de profiter les mandats, mais je voulais en profiter pour dire, nous devons tirer des leçons dans cette situation qui s'est passée au Zimbabwe. Et c'est aussi une occasion de dire à nos dirigeants, il n'est pas aussi bon de s'accrocher au pouvoir alors qu'on avait été voté par cette population qui peut-être pouvait encore continuer à vous accorder confiance. Lorsque vous atteignez la fête de votre mandat, si c'est 7 ans, il faut accepter de rendre l'établissement et d'organiser les élections. Et voilà donc Monsieur Robert Mugabe qui semble être chassé, et pourtant s'il démissionnait de lui-même, il serait honoré par sa population, pourquoi pas par les forces armées de sa République.
Éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa, Joël Kadé, Robert Mugabe n'est plus président de la République. C'est parti très très vite, en quelques jours, on a vu la situation du Zimbabwe prendre la tournure qu'on connaît aujourd'hui. Vous croyez en la démission sincère du président Mugabe, de lui-même, ou pensez-vous que quelques puissances internes ou même extérieures à son pays l'y ont conduit?
Non, je ne crois même pas au coup d'État opéré. C'était déjà planifié. C'était planifié lorsque...
Par l'armée zimbabwéenne?
Oui, par l'armée zimbabwéenne, par la ZANU-PF, qui est son parti. Vous rappellerez que même tous les médias disaient que avaient préparé celui qui est ou qui sera investi, qui a été investi hier comme président du Zimbabwe, quand on a fait de lui le vice-président. Et on disait toujours c'est le successeur potentiel de Mugabe. Donc c'était planifié. Deuxième élément, c'est arrivé pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, qu'il s'agisse tous les pays africains, lorsque le président arrive au pouvoir, il y a une clique d'individus que l'on a appelé là-bas les criminels, qui l'entourent, qui l'isolent des réalités de la population et qui commencent à chanter les djalélo pour lui. Ce qui fait que le président reste en déphasage avec les réalités du terrain et on commence à lui rapporter. Et la conséquence, c'est que comme il est en déphasage avec la population, tout ce qu'il donne comme message, ce n'est pas capté par la population. Et tout ce que la population lui transmet comme message, ça ne lui parvient pas parce qu'il est cloîtré, il est pris en otage par une clique d'individus. Vous allez me demander, j'étais en train de réfléchir d'une manière libre aujourd'hui. La seule fois où notre président a fait, par exemple, c'est que Kagame fait à Gisenyi avec les jeunes rwandais, où il entre en contact avec eux, il parle avec eux sur Facebook, il échange avec eux sur le Twitter, il échange avec eux dans les réseaux sociaux. Ça ne s'est jamais fait. La seule fois où il a été avec le chef de quartier de toute la République, la seule fois où il a été avec les 47 chefs de territoire, commissaires de territoire, comme on dit, avec le bourgmestre. Donc, ce qui fait que tous les rapports que les services de renseignement font sont teintés de mensonges qui font que le chef... Et vous allez même voir le discours qui était attendu pour que Mugabe prononce. Il prononce combien de fois Mugabe a prononcé le même discours au Parlement, un discours d'il y a une année, quand il était président de l'Union africaine ici. Il a prononcé un discours de la dernière session. Ce qui fait que même quand vous allez voir qu'il s'agisse de Congo-Brazza ou ici... Nos présidents, Denis Sassou Nguesso comme Joseph Kabila, ils sont isolés, ils ne sont plus avec leur peuple. Et la conséquence, c'est quoi?
Dimanche,
la conséquence,
je vais revenir à
ils
vous.
Seront, ils seront, tout peut arriver, comme c'est arrivé au Zimbabwe, sans qu'ils ne se rendent pas compte que même au niveau de l'armée, bon, malheureusement, au niveau de notre armée, elle a été tellement désarticulée, les services de renseignement, de sécurité ont été tellement désarticulés à tel point qu'on ne peut pas compter sur notre armée. Mais là où ça fait, là où j'ai peur,
Kadé,
le seul fait d'être isolé,
Joël Kadé, je vais revenir à vous,
peut permettre qu'il y ait des dégâts dans l'avenir.
Je vais revenir à vous pour le dernier tour de table. Nous y sommes d'ailleurs. Dimanche, Kamate, vous avez analysé la situation au Zimbabwe avec nous. Il y a une transition à faire. Comment voyez-vous la situation dans ce pays? Est-ce que vous pensez que les choses vont se passer tout à fait normalement et qu'un nouveau président légitime va arriver dans 6 mois ou alors vous pensez que ça va provoquer d'autres mécontentements?
D'abord, on souhaite que les choses puissent changer positivement. Mmh. Et ce n'est pas aussi le départ de Robert Gabriel Mugabe qui va aussi changer, ou qui peut aussi changer la situation là-bas. S'il n'y a pas un changement de mentalité de peuple zimbabwéen, même si Robert Mugabe est parti, quelque part, il y a risque de revenir sur la même position. Et donc, tous les Zimbabwéens ont fourni des efforts pour que Robert Mugabe parte. Il faut qu'ils aussi fournissent des efforts pour que les choses changent. Parce qu'aujourd'hui, on peut aussi dire que Robert Mugabe n'a pas fait grand-chose, mais celui qui viendra après lui, celui qui est venu après lui, risque fort de faire mal que ce que lui faisait auparavant. Et donc, les Zimbabwéens doivent aussi prouver en suffisance que le président précédent ne faisait pas mieux et que le mieux sera fait par celui qui va entrer.
Dimanche Kamate, je vous remercie beaucoup. Jean-Marie Kamboa, votre dernière prise de parole. Comment voyez-vous la suite au Zimbabwe? Tout va se passer normalement. On aura dans 6 mois un nouveau président et les Zimbabwéens vont connaître une nouvelle ère?
Non, d'abord, je note que la RDC n'est pas les Zimbabwéens. Il est vrai que la situation peut nous permettre de tirer des leçons. Malheureusement, nous ne sommes pas les Zimbabwéens chez nous. Nous avons un calendrier qui a été préparé. Nous avons des dates qui ont été fixées. Et nous continuons à croire que si tout le monde donne le meilleur de lui-même, si les contraintes sont rencontrées, moi, je suis de ceux qui pensent que nous allons arriver aux élections et il y aura une alternance paisible. Nous n'allons pas connaître ce que les autres connaissent. C'est une réalité qui est propre au Zimbabwe, où il y avait un président de 83 ans et qui avait déjà fait pendant longtemps
au pouvoir.
Mais moi, je note quand même que chez nous, il y a une feuille de route, il y a des élections qui sont prévues.
Alors, tout va bien se passer au Zimbabwe en deux phrases,
tout va bien se passer. Non, mais au Zimbabwe, celui qui va gérer le pays, c'est un caïman, il est aussi parmi les pères de l'indépendance. Je crois qu'il va conduire le pays jusqu'à une alternance qui conduira aussi aux élections.
La population zimbabwéenne l'appelle même d'ailleurs crocodile.
Voilà.
Alors, votre dernière analyse, Joël Kadé, au Zimbabwe, les choses vont se passer normalement. Y a-t-il des crises à craindre?
Mugabe est parti, vive Mugabe. Pourquoi le dis-je? Parce que la ZANU-PF va continuer à gérer au travers du vice-président et le système restera le même. Pourquoi le système restera le même? Parce que le pouvoir est détenu, vous l'avez constaté, par l'armée. Ce n'est pas la population. Même lorsqu'on va organiser les élections, ça sera de choses truquées. Mais ce que je crains pour la République démocratique du Congo, qu'il s'agisse du général le putschiste, comme on peut l'appeler, c'est parmi des gens dont les noms ont été cités dans le pillage des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Vous rappellerez de l'affaire Sengamine. Donc le pillage, c'est cette casique, c'est cette clique de criminels qui va encore poursuivre pratiquement le pillage de la RDC.
Mais on se rend compte dans cette histoire que le parti au pouvoir a placé encore un homme du parti au pouvoir. Est-ce que l'opposition peut attendre quelque chose?
Non, c'est pourquoi j'ai dit Mugabe est parti, vive Mugabe. Donc la planification telle que conçue a réussi normalement. Le cheveu dans la soupe qui allait abîmer la fête, c'était grâce à Mugabe. Et j'ai comme l'impression que Mugabe, ensemble avec son entourage, se sont entendus pour écarter et pour même divorcer d'avec sa grâce qui constituait pratiquement un poids sur lui. Il ne savait même plus être libre. Je crois que ça a été bien joué et Mugabe continuera à gérer bien qu'il ne soit plus au pouvoir. Ça veut dire le système Mugabe, le système de l'asphyxie de la population zimbabwéenne va se poursuivre sans lui.
Tribune de la presse est finie pour aujourd'hui. Alain Irung à la réalisation de Lamadimba vous l'a présenté. Au revoir.